voulu une famille, à aimer et qu'il l'aimerait en retour. Et qu'il, en l'aimant, révélerait sa gloire au monde. Et nous avons vu tout cela en lisant Éphésiens 2 et 3. Et je vous encourage, comme la semaine dernière, je vous encourage à lire toute cette lettre. C'est une très belle lettre, très édifiante. Et je vous encourage à lire et relire la lettre d'Éphésiens. Il n'y a que 6 chapitres, donc ce n'est pas très difficile. Vous pouvez le faire une fois par jour, et c'est très édifiant. Alors, si l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, cherche à décrire ce que c'est la famille de Dieu, il évoque aussi ce que c'est d'avoir une famille, une petite famille, un couple ou un foyer au sein de cette plus grande famille. Et ça, c'est surtout au chapitre 5 et 6. Et ça sera notre thème aujourd'hui et dimanche prochain. Et j'aimerais reconnaître, dès le début, que ça peut être un sujet un peu sensible. Parce que nous ne sommes pas tous là en famille ce matin. Certains d'entre nous ont vécu des choses très difficiles par rapport à ça. Un époux qui ne croit pas, par exemple, ou un couple qui s'est terminé par une séparation ou un divorce. Pour d'autres, c'est une situation avec les enfants qui nous trouble. Une relation brisée, peut-être, un enfant qui s'éloigne de Dieu. Et pour certains, c'est le fait justement de vivre sans époux ou sans enfant, malgré un fort désir d'en avoir qui est difficile. Et donc, si c'est votre cas ce matin, j'aimerais d'abord vous rappeler que Dieu connaît ta situation, il connaît tes souffrances et il souffre avec toi. Jésus était célibataire et sans enfant biologique, rappelons-nous. Et ce n'était pas forcément facile pour lui. Et dans toutes nos souffrances, Dieu nous voit et il souffre avec nous. J'aimerais aussi préciser que si on parle de l'Église comme une famille de familles, ce n'est pas parce qu'il faut être en famille pour venir à l'Église. J'espère que ça, c'est évident. C'est parce qu'on ne peut pas chercher à construire la maison de Dieu sans penser à sa propre maison, à ses relations les plus proches. Si nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans notre foyer, dans notre propre famille, ça va forcément miner la famille de Dieu dont cette famille fait partie. Et Jean-Serge va parler la semaine prochaine de ce que ça veut dire pour les célibataires parmi nous, parce que ce n'est pas toujours évident. Et puis, on parlera aussi la semaine d'après de ce que ça veut dire par rapport à nos relations entre parents et enfants. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par l'image biblique d'un couple, l'homme et la femme, différents mais égaux. Et là, ce sujet-là, l'homme et la femme, ça peut être aussi un sujet particulièrement sensible et interpellant parce qu'il porte sur notre identité en tant qu'homme et en tant que femme. Et il peut remettre en question en plus la relation que nous avons établie dans notre couple. Nous devons donc essayer de voir ce que la Bible en dit, quels que soient nos préjugés par rapport à cette question. Et nous amenons tous des préjugés par rapport à une question qui touche notre identité de cette manière. Donc, nous allons regarder d'abord ce qu'on voit dans le livre de Genèse et puis dans la lettre aux Éphésiens. Et ce qu'on va voir, c'est que ce titre, différent mais égaux, résume l'enseignement biblique par rapport à l'homme et la femme. Nous trouvons partout dans la Bible que nous sommes différents, mais égaux, par rapport à toute catégorie de personnes. Ces différences sont notre richesse. Et dans cette richesse, nous sommes égaux. C'est ce qu'on a vu le dimanche dernier par rapport à l'Église, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à l'homme et la femme dans un couple. Et nous allons voir ça à quatre égards. Comment nous sommes différents mais égaux à la création, comment nous sommes différents mais égaux dans notre péché, différents mais égaux dans nos besoins et différents mais égaux dans nos responsabilités. Et certes, quand on parle des différences entre hommes et femmes, il faut se méfier un peu des généralités, parce que tout homme n'est pas pareil, et toute femme non plus, heureusement. Et pourtant, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'humanité, homme et femme, deux types de personnes distinctes. Et il a fait pour une raison. Lisons Genèse 2. Verset 20 jusqu'à 23. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. » Et alors la première question, c'est vraiment pourquoi a Dieu créé la femme. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Parce que lorsque Dieu dit que ce n'est pas bien que l'homme, Adam, soit seul, ce n'est pas simplement parce qu'Adam était une seule personne et il avait besoin de quelqu'un avec qui il pourrait bavarder un peu. Et ce n'était même pas une question d'avoir une personne pour faire une moitié du travail. Parce que si ça aurait été le cas, Dieu aurait pu tout simplement créer un deuxième homme, n'est-ce pas? Même au niveau de la reproduction biologique, ce n'était pas strictement nécessaire, parce qu'il existe bel et bien dans le monde naturel des créatures qui se reproduisent par des manières qui n'exigent pas deux sexes. Dieu aurait pu arranger les choses différemment à ce niveau-là. C'est un peu difficile à imaginer, je l'avoue, mais c'est possible. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Parce que ce n'était pas bien qu'Adam soit seul, parce que le monde avait besoin de l'homme et la femme. L'homme, en tant qu'homme, n'avait pas tout ce qu'il fallait pour être l'humanité que Dieu envisageait. En fait, il n'était qu'une moitié de ce qu'il fallait. Parce que vous savez cette histoire de la côte d'Adam que Dieu prend pour former la femme. Ça peut donner l'impression qu'Ève était une sorte d'être inférieur et dire dérivative qui était un petit truc tiré du prototype parfait qui était Adam. Mais en réalité, le mot en hébreu, ce n'est pas exactement côte, c'est plutôt côté. Dieu a pris le côté d'Adam, comme s'il avait divisé Adam en deux. L'image est vraiment de deux vis-à-vis, deux personnes face à face, différents mais complètement égaux devant Dieu. Et justement, quand on arrive à la prochaine étape, la chute, Adam et Ève sont forcément égaux dans leur péché. C'est notre deuxième point. Nous savons que tous péchés sont égaux, dans le sens que tout péché va nous séparer de Dieu. éternellement si nous n'avons pas la foi en Jésus. Tout péché nous condamne. Tout péché est au-delà de nos forces à payer ou réparer. Et tout péché attriste l'esprit et peut étouffer sa puissance en nous. Mais en même temps, nous voyons clairement que tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences dans ce monde. Tuer quelqu'un, c'est évidemment plus grave dans un sens que de lui taper dessus. J'espère que vous le savez. Mais même si les deux sont également interdits. Et en voyant ça, en voyant que les conséquences du péché, des péchés peuvent être différentes, c'est très facile d'imaginer que le péché des autres est pire que le nôtre. Que les conséquences de leurs péchés sont pires que les conséquences de mes péchés. Moi, j'imagine que le mien, c'est comme un coup de pied, alors que celui de l'autre, c'est plutôt comme un coup de poignard. Et c'est surtout le cas quand l'autre est très différent que nous-mêmes. Une personne d'une culture différente, ou théologie différente, ou sexe différent. C'est toujours très facile d'imaginer que c'est le péché de l'autre qui est en train de gâcher le monde. C'est le péché de l'autre qui crée tous nos problèmes. Et c'est ce qu'on voit en Genèse 3, quand Adam et Ève mangent de l'arbre défendu. Genèse 3, 6, je vais lire. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc ici, il s'agit littéralement d'une question de gâcher le monde. Et malgré le fait qu'Adam vient de manger le fruit quand Dieu arrive, suite à ce verset qu'on vient de lire, Adam commence tout de suite en expliquant que, en fait, c'est le péché d'Ève qui a tout déclenché. Nous faisons tous comme ça, n'est-ce pas? Ah, c'est toujours le péché de l'autre, toujours. Mais Dieu ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas l'entendre. L'un était aussi coupable que l'autre. Bien évidemment, le péché d'Adam n'était pas identique à celui d'Ève. Elle s'est laissée séduire par le serpent, tandis qu'Adam la suit bêtement dans l'erreur. Au lieu de l'aider à résister comme il aurait dû faire. Les péchés n'étaient pas identiques. Mais les conséquences étaient pareilles et partagées. Les deux ressentent la honte pour la première fois. Les deux doivent quitter le jardin. Les deux vont voir le domaine de la vie qui leur est propre et cher, qui aurait dû apporter la joie et la satisfaction. Cela va devenir pour chacun une source de souffrance et de frustration. On va revenir à ça dans un instant. Mais pour le moment, l'important, c'est qu'Adam et Ève partagent la culpabilité. L'un n'avait pas eu confiance en la parole de Dieu et l'autre l'avait suivi passivement. Ce qui n'est pas pour dire que ça se passe toujours de la même façon, suivant ce schéma exact dans notre vie de couple ou dans nos relations avec nos amis. La vie n'est pas si simple que ça. Parce que parfois, c'est l'homme qui est séduit par Satan, par les mensonges de Satan, et c'est la femme qui le suit. Mais le point à retenir, c'est que malgré les différences entre le péché de l'un et de l'autre, c'est toujours le péché. Ça détruit toujours. Et le péché de l'un contribue à l'autre. Et le péché de l'un aggrave la situation créée par l'autre. Ça devient un cercle vicieux, la façon dont notre péché aggrave le péché de l'autre. Et pour vraiment voir comment ça se passe souvent dans nos relations il faut encore se débarrasser de cette idée que le mot péché veut dire tout simplement une action mauvaise qu'on a faite. C'est ça, mais c'est aussi notre état d'âme qui nous pousse non pas simplement à des actions dites péché, mais aussi à l'inaction. Ce qui était le cas pour Adam, d'abord, c'était son inaction qui a posé un problème en premier lieu. Adam aurait dû aider sa femme à résister à la tentation. Il aurait dû l'aider à voir son erreur, mais il ne l'a pas fait. Le péché, au fond, est le manque d'amour parfait pour Dieu et pour les autres. Au fond, tout péché est un manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Et ça veut dire que ce manque d'amour peut se manifester très subtilement dans notre vie, au début au moins. Surtout quand nous nous trouvons face à ce que nous ne comprenons pas chez l'autre. Il se fait voir très souvent dans la manière dont nous parlons de notre époux quand il n'est pas là. N'est-ce pas? Comment parlez-vous? Je vous pose la question. Comment parlez-vous avec vos potes autour d'un verre? Ou avec votre sœur ou votre maman par rapport à votre mari ou votre femme? Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'autre? Dès que nous nous permettons, par exemple, les gars, je vous parle, hein? Dès que nous nous permettons de nous plaindre habituellement avec nos potes que les femmes sont folles et frustrantes, nous sous-estimons nos propres faiblesses et notre propre péché. Et nous devenons très vite très critiques envers l'autre. Et ça commence par une blague. Au début, c'est marrant, mais ça mine très vite notre attitude envers l'autre. Et attention, ce manque d'amour, ce manque de respect, c'est pas quelque chose qui commence d'un coup quand on se marie. Les jeunes et les autres célibataires, commencez dès maintenant à faire attention à votre manière de penser et de parler de l'autre sexe. Ce sont des attitudes que vous cultivez en vous et qui vont avoir des effets pour toute la vie. Dès que nous nous permettons d'écarter de la perspective de l'autre, parce que ah bah ça c'est typiquement homme cette attitude-là, ah ça c'est typiquement femme cette idée-là, nous perdons la richesse de notre humanité comme Dieu l'a créée. Et même pire, nous commençons à mépriser l'autre parce qu'il est différent de nous. Et c'est qu'ainsi que nous oublions facilement que les besoins de l'autre, bien qu'ils soient différents que les nôtres, sont quand même égaux, également légitimes et également profonds. La personne en face de toi a des besoins et ces besoins sont importants et légitimes, aussi légitimes que les tiens. Et c'est notre troisième point. Nous sommes différents, mais égaux dans nos besoins. C'est ce qu'on voit en Genèse 3, versets 16 à 19. Je ne vais pas lire, mais je vais résumer. Nous voyons que nos besoins, nos difficultés dans cette vie, nos difficultés les plus profondes sont les produits d'un monde brisé, brisé par notre péché. Et ils sont d'ailleurs directement liés à notre identité en tant qu'hommes et femmes. Quand Adam et Ève se trouvent hors du jardin et sous le jugement de Dieu, les conséquences qui sont annoncées sont des conséquences qui portent directement sur leur identité. Pour Ève, on lit qu'elle va souffrir dans ses grossesses et dans sa relation avec Adam. Et il faut bien noter ici que malgré certaines traductions modernes, l'hébreu parle vraiment des grossesses, pas simplement de naissance. Et en disant que les grossesses lui donneront de la peine, Dieu prévient la femme que tout ce qui va avec le fait d'être mère pourra devenir une cause de peine. Ça devrait être un sujet de joie, mais dans un monde brisé, le fait d'être mère peut être une chose extrêmement douloureuse. Et quand on lit ensuite que son désir se portera vers son mari, ce n'est pas forcément un désir sexuel, c'est son désir pour son mari. Et ce désir va être tordu, tel qu'elle sera tentée de chercher quelque chose chez son mari qui ne peut pas lui assurer. Nos désirs sont tordus. Donc, bref, pour la femme, ses relations familiales vont être une source de douleur autant que joie. Et on lit par contre pour Adam qu'il va souffrir dans son lutte contre la nature, contre le monde, ce qui est dès lors hostile et dangereux. Et donc, bref, pour lui, il va souffrir dans sa quête de pouvoir pour sa famille, de la protéger et de cultiver la terre. Peut-être certains ici se reconnaissent dans ce schéma. Je ne sais pas. Mais pour ma part et pour Sheila, je peux dire que oui, c'est ce qu'on a vécu. Nos difficultés les plus profondes sont très souvent liées à ces deux choses-là. Et je reviens à notre expérience tout à l'heure, mais d'abord, une petite parenthèse. Cette division de rôle qu'on voit en Genèse, ça n'implique pas qu'une femme ne doit pas travailler hors du foyer, par exemple, ni qu'un homme ne va s'intéresser qu'à son boulot. C'est pas ça l'idée. Mais les différences ici dans ce passage met le doigt sur les choses qui vont nous toucher au plus profond de nous, au niveau psychologique et émotionnel autant que biologique. Parce qu'après tout, tout est lié. Tous ces aspects de notre humanité sont liés. À tous ces niveaux, nous sommes doués et construits des manières parfois très différentes, l'homme et la femme. Et ça veut dire que nos difficultés et nos besoins sont souvent très différents aussi. Et comme pour le péché, le piège est que nos propres besoins nous semblent compréhensibles, mais ceux de l'autre peuvent très vite semblent exagérés et même illégitimes. Par exemple, dans mon cas, à un certain point, j'ai constaté que Sheila avait apparemment un besoin que je l'ignorais et je ne savais pas ce que c'était. Comme souvent, ça commence par la confusion de ma part. Mais ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre couple. Et franchement, j'étais un peu irrité parce que je pensais faire tout ce que je pouvais pour faire fonctionner notre vie de famille et notre vie de couple. Je rentrais le soir et je travaillais sur un projet dans la maison, je rangeais le garage, je payais les factures. Je ne voyais pas comment faire plus. Mais voilà le problème. J'essayais d'être efficace et productif parce que pour moi, c'était clair que c'est comme ça qu'on travaille en équipe. Mais ce dont Sheila avait besoin, à ce moment-là au moins, parce que ça peut changer, les besoins peuvent évoluer, il ne faut pas imaginer que ça reste les mêmes, c'est aussi un piège. Il faut laisser l'autre évoluer. Mais à ce moment-là, au moins, le besoin était que je m'assoie dans la cuisine avec elle pendant un temps lorsqu'elle cuisinait. C'était tout. Ce n'était pas que je cuisine pour qu'elle puisse faire autre chose, ce qui m'aurait semblé logique, mais simplement que je sois présent pour parler et franchement pour montrer un peu ma solidarité avec elle et avec son projet. Au début, j'avoue que ça me semblait un peu bête. Un truc de femme incompréhensible, j'aurais dit. Je l'ai dit peut-être même à un de mes amis. Parce que sûrement ça aurait été mieux pour nous en tant que famille si j'accomplissais quelque chose pour la famille pendant ce temps. Mais j'ai fait ce qu'elle m'a demandé quand même pour elle et finalement, très bientôt, en fait, ça nous a fait du bien. Le fait de parler un peu ensemble de notre journée, ça lui remontait le moral pour le reste de la soirée, ce qui n'est pas toujours un moment facile quand on a des petits. Mais c'était bien pour notre couple aussi, et pour moi d'avoir ce temps avec elle. Bon, peut-être cette illustration ne correspond pas du tout à votre couple ou vos relations, vos besoins. Peut-être que chez vous, c'est l'inverse même, et que c'est justement ranger le garage qui pourrait remonter la morale de la femme. Donc, voilà, les gars, à vous à trouver ce qui est le vrai besoin chez vous. Mais si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est simplement que ce besoin que Sheila ressentait me semblait, au début, complètement illogique. Mais ça ne voulait pas du tout dire que c'était illégitime. Tout au contraire, ça faisait partie des choses pour lesquelles elle est plus douée que moi. Elle voyait ce besoin dans notre couple, et moi, j'avais besoin de l'écouter et de réagir. Ce qui nous amène à notre dernier point, nos responsabilités. Si notre péché et nos besoins sont différents mais égaux, c'est pareil pour nos responsabilités, l'un envers l'autre. Cette idée de responsabilité est le propos des versets en Éphésiens 5 qu'on va lire. Et tout ce que Paul dit dans ce passage en Éphésiens, ça prend pour acquis le contexte qu'on vient de voir dans le livre de Genèse. Paul cite un verset de ces chapitres. Ça prend pour acquis le péché et la lutte contre les difficultés qu'on vient de discuter, le péché et les besoins différents mais égaux de l'homme et de la femme. Donc on va lire Éphésiens 5, versets 20 à 28. Verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut commencer là. Il faut commencer au verset 20. Commence pas avec verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Parce que si on va se soumettre les uns aux autres, il faut commencer en remerciant Dieu. Alors, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Alors, c'est un passage pas toujours évident. Pas toujours évident à comprendre et pas toujours évident à mettre en pratique. Alors, d'abord, quelques détails de traduction. Dans ces versets, le mot « chef », c'est le mot pour « tête », comme en français ancien. Soit la tête littérale, soit quelqu'un qui dirige. Mais ce n'est pas le sens de « patron », comme nous avons maintenant en français courant. Donc si vous, les hommes, si vous pensez que vous êtes le boss de votre femme, je suis désolé, mais vous vous êtes trompé. Ça ne va pas dans l'autre sens non plus. Là, vous n'êtes pas le PDG de votre maison. Rappelons-nous comment Jésus décrit le ministère d'un dirigeant, suivant son exemple en Luc 22, 25, nous lisons, Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. Alors, si nous parlons de diriger dans l'Église ou dans une famille, il faut commencer avec cette définition de diriger. Quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui se met en bas. Deuxièmement, le terme soumettre dans ce passage, verset 21, dit clairement « Soumettez-vous les uns aux autres ». Mais après cela, selon la traduction, on peut avoir l'impression qu'en fait, c'est vraiment la femme qui doit soumettre, n'est-ce pas? Parce que c'est dans les versets adressés aux femmes que le mot se répète. Mais en fait, dans l'original, le mot ne se répète pas. C'est quelque chose qu'on peut faire plus facilement en grec qu'en français. Et c'est pour ça que la version, la seconde, le rajoute au texte, mais le met entre parenthèses en verset 22. Et ça, c'est un détail important, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que Paul dit d'abord, en verset 21, qu'on doit se soumettre l'un à l'autre. Et puis, il décrit comment cela se fait. D'abord pour la femme, et puis pour l'homme. Et donc, pour la phrase sur la femme et la phrase sur l'homme, ce n'est pas une question de se soumettre ou pas, mais comment. Et c'est là où on voit la différence. La soumission est égale, mais elle n'est pas identique. Parce que, comme nous l'avons vu, nos besoins ne sont pas identiques. Et se soumettre à l'autre veut dire finalement mettre les besoins de l'autre au-dessus des miens. Littéralement, mettre mes besoins en dessous ceux de l'autre. Soumettre. C'est dans le terme. Et pour cela, ces versets disent, la femme doit voir l'homme comme quelqu'un qui est là pour se donner pour elle, comme Jésus l'a fait pour l'Église. Et inversement, alors, l'homme doit être quelqu'un qui est là pour se donner pour sa femme. Et si nous imaginons que cette comparaison est insultante pour la femme, qu'elle soit dans la place de l'Église dans cette analogie, rappelons-nous de la façon dont Jésus parle de l'Église. C'est le nouveau temple de Dieu dans le monde, son propre corps. Et d'ailleurs, c'est l'Église qui va mener à l'accomplissement le projet que Jésus a commencé. L'Église, nous avons dit, est la pièce maîtresse du plan de Dieu. Il n'y a aucun mal en étant comparé à l'Église. Et c'est une grosse erreur d'imaginer que l'analogie que Paul fait implique que l'homme est plus important que la femme. Jésus est mort pour l'Église. Et si on meurt pour quelque chose qui vaut le coup. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'être tête et corps? Cette différence entre l'homme et femme, si ce n'est pas une question d'être plus important? Bon, certains expliquent cette idée sur le plan pratique en disant que ça veut dire simplement que, idéalement, on travaille ensemble en équipe pour prendre chaque décision qu'il faut dans notre vie ensemble. Mais si jamais on arrive devant une décision où on ne peut pas se mettre d'accord, c'est la vie du mari qui gagne, entre guillemets. Que c'est le mari qui tranche. Et c'est vrai que parfois, ça peut être utile d'avoir une manière de trancher face à une décision difficile. Mais il faut reconnaître d'abord que dans ce cas, ce n'est pas forcément un privilège d'être la personne qui doit trancher. Les hommes, si vous êtes dans une relation où vous arrivez à discuter et à travailler ensemble comme une équipe, et vous trouvez un jour devant une décision où c'est à toi à prendre la décision contre la vie de ton épouse, vous devez le faire avec beaucoup de respect et même peut-être crainte, parce que vous pourriez avoir tort d'abord. Et c'est une grande responsabilité d'être la personne qui tranche devant une décision difficile. Si vous vous dites jamais « Ah, c'est bien d'être la tête », vous avez très probablement mal compris ce que ça veut dire. La vie de Jésus en tant que tête de l'Église n'était dans aucun sens une vie aisée. Et la deuxième chose par rapport à cette explication en termes de qui prend la décision, c'est que si nous nous limitons à la question de qui prend la décision, je pense que nous ratons le sens profond de ce que nous voyons ici et en Genèse. Parce que ça ne prend pas en compte les besoins différents de l'homme et de la femme, comme nous le voyons dans ces passages. Au fond, la question de qui prend les décisions, c'est le moindre des choses. La plus grande responsabilité et le plus grand défi est d'apprendre à reconnaître et à réagir aux besoins de l'autre, qui seront forcément différents que les tiens. Et ça, c'est valable autant pour la femme que pour l'homme. Bien que les besoins soient différents, il y aura un sacrifice des deux côtés. C'est ça la vérité au fond de ce passage. Des deux côtés, il y a des sacrifices à faire. Et qu'est-ce que nous voyons alors si nous prenons le passage de Genèse et Éphésiens ensemble? D'un côté, du côté de l'homme, il y a l'idée de prendre l'initiative pour pouvoir et pour protéger la femme. Et de l'autre côté, du côté de la femme, il y a l'idée de soutenir et de nourrir, c'est-à-dire d'affirmer et d'affermir ce qui est bon chez son mari. À la première vue, j'avoue que ça peut sembler simplement un reste de la civilisation ancienne où tout dépendait de nos traits physiques, n'est-ce pas? L'homme fort qui protège la famille des bêtes sauvages et la femme qui nourrit la famille. Mais si tout est lié, le physique, l'émotionnel, le psychologique, c'est logique que ces deux rôles restent pertinents et qui sont en fait un aspect inhérent de la création. Dans le fait que Dieu nous a créés hommes et femmes, bah certes, il ne s'agit plus de tuer des lions d'un côté ou de fabriquer des vêtements à la main à la maison toute la journée de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ces images ne peuvent pas nous parler si nous les laissons. Et moi, je ne voulais pas entendre ça pendant longtemps dans ma vie. Et je vous dis pourquoi. Parce que j'imaginais que c'était offensif à ma femme d'impliquer qu'elle avait besoin d'être protégée d'une façon quelconque. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était bête. Parce que ce n'est pas une question de si elle peut prendre soin d'elle-même ou pas. Parce qu'elle peut. Mais ce n'est pas comme ça qu'une équipe fonctionne, en faisant tout ce qu'on peut. Une équipe fonctionne en faisant chacun ce qui permet à l'autre de s'épanouir. Ce n'est pas une question de « peux-tu ou pas faire ça ?» C'est une question de « qu'est-ce qui va faire l'autre s'épanouir ?» Chez nous, on a découvert pour ma part qu'il s'agit de créer un espace émotionnel et psychologique et même physique dans notre maison qui permet à ma femme et à mes enfants de s'épanouir. Pour moi, de prendre l'initiative dans notre vie de famille sur le plan spirituel, relationnel et professionnel. Et de sa part, il s'agit d'utiliser cet espace pour affirmer et nourrir ce qui est bon en chacun de nous, dans toutes ses formes, pour que nous puissions tous être la meilleure version de nous-mêmes que nous pouvons être, en nous encourageant, en partageant sa sagesse avec douceur et en nous pardonnant librement. Alors, cette description, c'est un peu vague, je sais. Mais ce n'est pas grave, parce que chaque couple, chaque personne est différente. Et ce que la Bible nous donne n'est pas une recette détaillée à suivre, mais les grandes lignes de notre posture et notre attitude envers l'autre. Ce n'est pas une simple question de qui va décider où on va manger ce soir, ou même quelle maison est-ce qu'on va acheter. Ce passage nous exige de remettre en question non seulement nos actions, mais nos attitudes profondes l'un envers l'autre. Femme, est-ce que vous respectez votre mari sans le mépriser pour ses fautes? Ce n'est pas quelque chose de facile. Est-ce que vous nourrissez en vous-même de la patience et de la douceur envers lui, même quand il n'est pas parfait? Homme, est-ce que vous aimez vos femmes, même quand ça vous coûte, même quand il faut sacrifier de votre temps et de votre énergie pour les choses qui lui sont importantes? Est-ce que quand vous voyez ses fautes, vous lui montrez la grâce du Seigneur pour l'aider à avancer? Ce sont les questions que ce passage nous pose. Sheila et moi, nous sommes rendus compte après quelques ans de mariage que dans l'intérêt d'être égaux, nous avions nié nos différences, nos besoins, nos faiblesses, nos péchés et nos responsabilités. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Peut-être, toi, tu vois l'autre dans ton couple comme tellement différent que tu ne peux pas imaginer qu'il soit ton égal ou que tu sois le sien. Mais tu l'es. Vous êtes égaux dans votre péché, dans vos besoins et dans vos responsabilités envers l'autre. Mais vous êtes différents aussi. Et c'est pour ça, finalement, que vous devez vous soumettre l'un à l'autre. Parce que sans se soumettre mutuellement, deux personnes ne peuvent jamais vraiment s'aimer l'un l'autre. Et c'est l'amour du Christ qui nous appelle à aimer l'autre comme il nous a aimés. Nous allons chanter deux chants comme réponse à ce que Dieu est en train de nous dire personnellement. Mais avant de faire ça, je veux dire clairement que ce que je viens de dire, c'est une tentative de comprendre l'image que Dieu nous donne d'un couple idéal pour que nous puissions le poursuivre. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons en ce moment dans des situations loin de l'idéal. Et c'est pas toujours évident de savoir appliquer ce genre de passage dans une situation particulière. Et ça peut nous faire souffrir. Et si c'est le cas pour vous, je vous encourage d'essayer d'appliquer ce passage dans votre couple, même si au début, ce n'est pas du tout réciproque. Ça ne va jamais être parfaitement réciproque dans tous les cas. Et si on attend les meilleures conditions, on ne commencera jamais. Et je vous encourage aussi à venir prier avec quelqu'un pendant ces chants, ou d'en parler avec un frère ou une sœur cette semaine, ou venir à la soirée de prière où vous aurez l'occasion d'adorer Dieu pour son amour parfait et de passer du temps ensemble dans la prière pour ce qui vous est difficile dans votre couple ou vos autres relations. C'est l'amour du Christ qui nous appelle et qui nous guide et qui doit être au centre de toutes nos relations et de toutes nos difficultés. Maintenant, pendant ces chants, par la prière, déposons tous nos propres péchés devant la seule personne qui peut vraiment les pardonner. Déposons nos propres besoins devant lui, parce qu'il est le seul qui peut les combler et qui peut nous transformer en son image. Alors, la musique est un peu...